Bonjour à tous, je m'appelle Michel Castagnaud, je viens de l'autre côté des montagnes de la région de Gap, dans les Hautes-Alpes, côté ensoleillé des montagnes, bien que nous soyons réveillés avec de la neige pas très loin ce matin. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. De mémoire, je crois que c'est la troisième fois que je vous rends visite. Donc je m'appelle Michel Castagnaud, je suis marié à Bénédicte, j'ai quatre enfants qui sont jeunes adultes. Je suis dans le ministère, un ministère un peu particulier parce que je ne m'occupe pas d'une assemblée en particulier, mais un ministère transversal avec plusieurs responsabilités au sein des communautés et assemblées évangéliques de France dont l'assemblée fait partie, la famille d'église, avec entre autres des responsabilités à ce qu'on appelle la CSR, c'est la commission de coordination de nos églises au niveau national et puis aussi au niveau de la mission, du pôle mission. J'étais venu à ce titre-là d'ailleurs, je crois, la dernière fois. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Vous connaissez sans doute cette expression, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Effectivement, la motivation, le pourquoi de nos actes est une démonstration beaucoup plus parlante de ce que nous pensons ou désirons exprimer que souvent le résultat concret. Je me rappelle d'ailleurs la fois où mon épouse m'avait donné un an de plus sur le gâteau d'anniversaire. C'est l'intention qui compte. Gâteau délicieux par ailleurs, je me rattrape. C'est l'intention qui compte et particulièrement vrai et juste dans les relations humaines, notamment pour exprimer son amour envers un être cher. Et si vous êtes comme moi, je m'adresse aux hommes là en particulier, c'est un vrai casse-tête de trouver l'anniversaire, le cadeau d'anniversaire de mariage qui fait plaisir et qui à la fois reflète les pensées du cœur. Récemment, d'ailleurs, j'avais eu l'idée d'offrir un vélo à mon épouse pour notre anniversaire de mariage. Et mon intention était simplement que nous puissions partager ensemble ces temps que je m'accorde à VTT. Finalement, j'ai abandonné l'idée, peut-être un flash de clairvoyance, en me posant la question de comment pourrait être reçu ce fameux vélo. Tu veux que je fasse du sport? Que je tienne ma ligne? Etc, etc. Vous voyez, dans ce cas-là, l'intention est cruciale. Alors bref, vous l'aurez compris, je souhaiterais que ce matin nous puissions parler de nos propres intentions, nos propres motivations au quotidien, non pas vis-à-vis de nos proches, mais vis-à-vis de notre cher Sauveur et Seigneur. Et ainsi, je vais lire les premiers chapitres de Genèse, chapitre 4, les versets 1 à 8. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs !» Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Nous avons donc là deux frères, Abel, frère aîné, Caïn, le frère aîné, Abel, le petit frère, qui décident de faire une offrande à l'Éternel. Quoi de plus normal pour ces deux frères que de célébrer l'Éternel, de célébrer Dieu, ils sont enfants d'Adam et Ève, ils ont une certaine connaissance de Dieu, du Créateur, et aussi de leurs conditions de vie, qui est maintenant lié à la chute, à la désobéissance de leurs parents. Il travaille dur. Caïn, lui, s'est spécialisé dans l'agriculture et Abel, son cadet, dans l'élevage. Ils expérimentent en fait la vie difficile et pénible en dehors du jardin idyllique d'Éden. Et c'est vrai qu'Adam et Ève, eux, ont vécu par le passé une relation privilégiée avec le Créateur qui était présent au quotidien et qui répondait à tous leurs besoins, qu'ils soient physiques ou spirituels, les plus profonds. Et ce n'est plus le cas maintenant pour Abel et Caïn. Alors par ces offrandes, quelles étaient donc leurs intentions? Quelles étaient leurs motivations? Est-ce qu'ils désiraient combler le vide de cette séparation? Est-ce qu'ils souhaitaient être agréables à Dieu? Alors je vais m'efforcer de répondre à ces questions et puis d'en tirer des encouragements ou des leçons pour nous aujourd'hui. Je m'arrête en premier lieu sur la condition spirituelle de Caïn et ensuite d'Abel. Alors ce texte est très bref finalement, il est très sobre, mais heureusement, le Nouveau Testament viendra à notre aide sur les intentions de l'un et de l'autre. Caïn. Alors évidemment se pose la question de pourquoi Dieu ne porte-t-il pas un regard favorable à cette offrande, à ce cadeau offert par Caïn. C'est une question clé de ce texte. Est-ce à cause du fait qu'il n'y ait pas eu de sacrifice de sang? Vous savez, pour ceux qui connaissent la Bible, il est normal de se poser la question, puisque ce texte fait référence au sacrifice d'animaux qui a été opéré par Dieu suite à la chute, à la désobéissance d'Adam et Ève, où Dieu les para, les habilla de peau d'animaux. Ce texte fait aussi référence à la loi mosaïque, avec les sacrifices de sang, pour purifier l'homme de son péché et qu'il puisse s'approcher de Dieu. Mais juste dans le texte, Dieu ne va pas sur ce terrain de l'offrande, mais plutôt de la personne, de ses intentions. Et Dieu pose la question à Caïn, « Pourquoi es-tu si irrité? Pourquoi cette air sombre ?» Et nous imaginons un Caïn agacé, contrarié, qui est tout simplement en colère. Nous vivons tous des colères. Parfois, nous exprimons de bonnes colères pour des causes justes, parfois de mauvaises colères. En tout cas, moi, j'ai pris l'habitude, même en cas de colère justifiée, lorsque je m'agace, lorsque je m'irrite, lorsque cela perdure dans mon cœur, je me dis, voilà, c'est un feu orange clignotant. Parce que même au départ, si une colère peut être motivée par la justice de Dieu, par quelque chose de vrai et de sain et de juste, cette colère risque bien de s'attacher à moi pour servir par la suite ma propre justice. Alors, quelle est d'ailleurs la source de cette colère de Caïn? Le texte nous laisse entrevoir de la jalousie, que l'orgueil de Caïn a été touché, qu'il a été offusqué par la réponse de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit, 1 Jean 3,12, premier épître de Jean, « N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. » Jude, chapitre 1, verset 11, nous dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. » Voilà, l'épître de Jean, d'une part, valide cette attitude de cœur de Caïn qui est tournée vers le mal, et Jude assimile cette intention, cette attitude aux tristes histoires de Balaam et de la révolte de Corée. Quel est le point commun de ce que Jude appelle les enfants du diable? Eh bien, ils cherchent un salaire, une rétribution qu'ils pensent mériter. Dans notre cas, Caïn cherchait, par son acte, à mériter la reconnaissance de Dieu, la reconnaissance divine. Dans le Nouveau Testament, quel est le seul salaire, quel est le seul mérite de l'homme vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Dieu Saint? Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Un salaire, ça se mérite. La seule chose que nous méritons de Dieu, c'est la mort à cause de notre péché, à cause de cet esprit d'indépendance, de rejet du Créateur. Et si nous méritons quelque chose, c'est simplement la justice divine, la justice de Dieu, c'est-à-dire la mort, c'est-à-dire être séparé éternellement du Créateur. Nous le voyons donc, Caïn a subi l'assaut de la tentation, et comme ses parents, il n'a pas résisté. Il pensait pouvoir s'approcher de Dieu, être reconnu par lui par ses propres œuvres, mériter de par la qualité de son travail de lui parler face à face, peut-être de rompre la séparation, la relation. Mais la jalousie a révélé sa mauvaise motivation, sa mauvaise intention orgueilleuse et l'a poussé au meurtre. Voilà la condition spirituelle de Caïn. Arrêtons-nous sur celle d'Abel. L'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 35, fait référence au sang innocent d'Abel. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4, vous savez, l'Épître aux Hébreux, c'est l'Épître des héros de la foi, nous dit, elle référence Abel en disant « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. » Je ne sais pas que dire de plus sur la condition spirituelle d'Abel. S'approcher de Dieu, non pas motivé par sa confiance en lui, mais par sa confiance en Dieu. Il a apporté son offrande à Dieu, non pour mériter quoi que ce soit, mais tout simplement pour lui faire plaisir, pour l'honorer. Sa motivation, son intention était portée sur Dieu et non sur lui-même. Et c'est pour cette raison que Dieu l'agrée, parce que Dieu observe et lit nos intentions de cœur. Alors vous notez bien entendu tout le symbolisme et la préfiguration de son acte que je ne rejette pas. Un premier-né du troupeau, il offre un premier-né du troupeau et de leur graisse, et de sa graisse. Donc nous entrevoyons là la révélation de la loi de Moïse et bien sûr la révélation du sacrifice de Christ, la révélation ultime. L'idée finalement qui est encore camouflée, qui ressort de ce texte, est reprise et détaillée par exemple dans Éphésiens 2 chapitre 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Voilà l'attitude d'Abel, l'attitude de Caïn. Et je souhaiterais maintenant que nous puissions en tirer quelques conclusions pour nous aujourd'hui, entre religiosité formaliste ou foi, confiance en Dieu. Caïn désirait s'approcher de Dieu. Et je m'adresse ici aux plus jeunes, peut-être à ceux qui seraient en recherche ou qui se posent des questions sur la foi et la religion. Selon les statistiques que l'on trouve sur le net, environ 84% de la population mondiale est religieuse. C'est pas rien. Donc la grande majorité des hommes et des femmes cherchent à s'approcher de Dieu ou d'une divinité éventuelle. Et la plupart des religions, sur le fond, nous encouragent à être agréables à Dieu en suivant tel ou tel mode d'emploi, en faisant ceci ou en ne faisant pas cela, en se comportant de telle ou telle manière ou en faisant des efforts. Et cet exemple de Caïn et d'Abel nous présente finalement les deux seules manières proposées par les religions pour s'approcher de Dieu ou d'une divinité. Il y a la façon Caïn, il s'approche de la divinité, de Dieu, en cherchant à être reconnu par ses propres actes, par son obéissance, on pourrait parler d'obéissance à des règles, par un comportement. Vous me direz aussi qu'il s'approche par la foi, mais dans son cas, la foi est limitée à la croyance en l'objet de la dévotion. C'est simplement croire à l'existence de tel ou tel Dieu. Et puis, il y a la façon Abel, une autre proposition pour s'approcher de Dieu, qui, elle, est par la foi seule. Mais la foi biblique ne se limite pas en la seule croyance de l'existence de Dieu, comme celle de Caïn, mais dans la confiance que Dieu est amour et que lui seul, à cause de mon péché, peut faire un pas vers moi et pas l'inverse. Et nous savons que ce pas a été réalisé uniquement par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu fait homme qui a payé le prix de notre justice. Et cette approche de Dieu, par la grâce de Dieu, est l'exclusivité du christianisme qui est bien compris. Et cette proposition est unique face à toutes les autres religions qui entrent, elles, dans le cas de Caïn. Juste une petite remarque, je précise que cette compréhension du seul chemin qui mène à Dieu n'est pas limitée qu'à nos églises protestantes évangéliques. La disposition de cœur est donc différente entre Caïn et Abel. Au final, pour Caïn, elle est tournée vers lui-même, vers l'homme. Pour Abel, elle est tournée vers Dieu. Si quelqu'un ici cherche Dieu, cherche le Seigneur, la bonne nouvelle est que la porte du ciel est encore ouverte aujourd'hui, dans la mesure où vous êtes dans la disposition de cœur d'Abel. J'ai relu ce texte en fait récemment dans ma lecture suivie et j'ai été interpellé par le Seigneur. Je me suis dit, bon, si ce texte qui est bien connu m'interpelle après 37 années de vie chrétienne, voilà, il faut que je réfléchisse de plus près. Et je souhaiterais donc maintenant m'adresser à tous ceux qui sont engagés de longue date et vous partager mes réflexions. Vous savez, le fait de rencontrer Dieu, de lui donner notre vie, n'a pas permis que du jour au lendemain, nous laissions Dieu combler nos besoins les plus profonds, les plus intimes. Nous n'avons pas encore retrouvé un contexte de vie similaire à celui d'Adam et Ève au Jardin d'Éden, qui bénéficiait de la présence de Dieu, qui pourvoyait au total épanouissement d'Adam et de Ève. Les besoins les plus profonds qui animent les désirs des hommes et des femmes pourraient se résumer ainsi. Je ne veux pas faire de psychologie, je vous rassure. Mais on pourrait les résumer ainsi, être aimé, être reconnu, servir à quelque chose, hein, on réfléchit sur le sens de la vie, et se sentir en sécurité. Être aimé, servir à quelque chose, se sentir en sécurité. Alors vous me direz, ben oui, moi je connais la théorie. Je sais que Dieu est là pour me combler de son amour. Je sais que l'amour de Dieu dépasse, surpasse tout amour humain. Je sais qu'en Christ, j'ai une nouvelle identité en lui. Que je suis reconnu comme un enfant de Dieu parce que je lui ai donné ma vie. Je sais que Christ m'appelle son ami. Je sais que je suis un co-héritier de Christ. Je sais que ma vie, elle est au service de la raison d'être de l'Église elle-même. Donc, ma vie a un but qui est gratifiant, qui est précis. Je sais aussi que, théoriquement, ma sécurité est dans la toute-puissance de Dieu et dans l'espérance. Nous le savons intellectuellement, peut-être même que vous l'enseignez. Mais la réalité de tous les jours, c'est que nous avons souvent du mal à le croire et à le vivre pleinement, et que nous restons bien incrédules dans certains aspects de nos vies, et parfois même complètement fermés à toute remise en question, parce que nous sommes trop attachés à ce que notre chair a subtilement construit, et à ce qu'elle s'est accaparée. Toute une vie chrétienne n'est pas suffisante pour se débarrasser des systèmes tortueux que nous avons mis en place avant de connaître Dieu le Seigneur. Tous ces systèmes que nous avons mis en place pour répondre à ces besoins vitaux. Alors j'aurais pu parler dans un autre message de tout ce qui touche à notre construction, à notre vie sentimentale et sexuelle. Ici je m'arrêterai plus sur l'attachement que nous avons à notre place dans la société, la place que nous avons dans l'Église, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Le besoin de se savoir utile ici ou là, ou de se sentir indispensable. On pourrait parler aussi d'un aspect sécuritaire, voilà, chercher à se sécuriser au maximum avec un matelas financier ou de moultes assurances en tout genre. Qu'est-ce que tout cela représente pour chacun d'entre nous? Quels sont les degrés de notre attachement à ces valeurs toutes humaines? Peut-être que des fois, notre engagement spirituel est entaché d'un désir de réalisation personnelle. Mon comportement, des fois, de fidèle, de bon et fidèle chrétien protestant évangélique, est peut-être des fois suscité par l'esprit de Caïn, par ce besoin de reconnaissance. Combien de fois mes offrandes ne sont pas agréables à Dieu? Des offrandes ou un service qui ne sont pas agréables au Seigneur parce que je me récompense moi-même, puisque mon objectif est centré sur moi plutôt que sur lui. Et cet esprit de Caïn peut entacher ma piété, ce que j'appelle de la piété, de ce que je mets en place tous les jours, la lecture de la Bible, la prière, les activités auxquelles je participe à l'Église, voire même mon engagement dans l'Église locale. Et de par mon ministère, où ces dernières années je suis intervenu régulièrement dans, on va dire clairement dans des conflits d'assemblée, je pourrais vous citer plusieurs exemples de serviteurs d'apparence consacrée, mais qui ont été vraiment, et ça se voyait, animés dans certaines situations par cet esprit de Caïn. Et ça serait trop facile de vous parler de ces exemples, parce que je suis moi-même concerné par cet avertissement, parce que tous les jours, on en parlait tout à l'heure, on parle de discipline chrétienne, c'est pas toujours facile de lire sa Bible, de prier. Mais certains chrétiens lisent leur Bible, prient, mais animés d'une mauvaise intention. Parce que c'est une intention légaliste, formaliste. Si vous êtes comme moi, de par mes responsabilités, mes engagements dans l'union d'Église, alors là, vous êtes encore plus exposés. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous concernés par ces potentielles faiblesses. Et un de mes objectifs ce matin, est que nous puissions prendre conscience de ces mécanismes qui pourraient nous entraîner dans le péché, voire même qui pourraient avoir des conséquences négatives sur l'Église locale. C'était le cas à Corinthe. Pointé du doigt par l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 3:3, vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Et dans quelle mesure n'ai-je pas aussi, sous couvert d'une forme très spirituelle, contribué parfois à un esprit de division, entretenu des querelles, eu une mauvaise influence ou exposé mon orgueil. Tout simplement parce que mes motivations étaient mauvaises, parce que je cherchais à remplir je ne sais quel besoin profond auprès des frères et sœurs plutôt qu'auprès de Dieu. L'homme est bien disposé, mais la chair est faible. Alors ce texte met en avant la foi d'Abel, et nous invite à adopter cette attitude d'Abel. Je relis Hébreux 11, verset 4, « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes. » Abel, à la différence de Caïn, n'attendait pas un résultat d'être trouvé méritant ou reconnu pour son travail. Il espérait, il était animé par la confiance qu'il avait en Dieu. Il est venu vers Dieu avec une attitude d'humilité. Sans doute, à la différence de Caïn, avait-il bien intégré qu'il n'était pas au jardin d'Éden, qu'il était séparé de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons nous approcher de Dieu, le louer, l'adorer et le servir. Nous sommes quelque part appelés à vider nos poches de de nos exigences personnelles, de nos revendications, de nos attentes égoïstes, d'une religiosité uniquement formaliste. Et c'est ainsi que Dieu portera un regard favorable et nous encouragera. C'est ainsi aussi que notre vie spirituelle pourra grandir avec cette prise de conscience à la fois de l'étendue de mon péché, mais en parallèle à la prise de conscience de l'étendue de la grâce de Dieu, de la dimension du sacrifice de Christ. Tout cela pour un esprit reconnaissant qui va entraîner un élan spirituel et l'épanouissement du Saint-Esprit dans nos vies. Saint-Esprit que Dieu nous a donné, lorsque nous sommes donnés à lui. Parce que Dieu nous verra à travers le sacrifice de Christ, à travers sa justice, à travers son pardon. Et quelle joie d'une pleine communion avec Dieu, une joie qui surpasse toute joie humaine, toute joie humaine. Voilà, je voudrais conclure. Vous l'avez compris, esprit de Caïn, esprit d'Abel, un choix déterminant, je parlerai de choix quotidien. Alors déjà, pour initier ou pas une relation personnelle avec Dieu, que j'encourage pour chacun, et vous savez qu'une relation avec Dieu, elle commence par une prière toute simple, avec nos propres mots, avec simplement de la sincérité. Et puis dans un deuxième temps, l'esprit d'Abel ou l'esprit de Caïn pour évaluer régulièrement notre motivation au service, notre motivation à honorer, à glorifier le Seigneur et éventuellement pour réajuster le tir par une demande de pardon. Vous savez, avec le temps, bon, je dirais c'est plutôt une bonne chose, nous acquérons plus de connaissances de la parole, de l'expérience, de la sagesse. Peut-être avez-vous développé et affûté vos dons spirituels. Vous avez peut-être été amené à prendre des responsabilités de plus en plus importantes. D'autres ont bien réussi dans la vie séculière. D'autres encore ont un fort charisme impressionnant. Nous avons aussi pris des habitudes de discipline spirituelle. Mais tout cela peut être un piège, tout cela peut changer notre attitude vis-à-vis du service que Dieu nous a confié, voire même par rapport dans notre relation personnelle avec lui. J'ai pris une habitude, c'est une prière que je fais régulièrement lorsque je me retrouve, par exemple, dans un moment où je souhaite avoir un culte personnel, ou parfois dans des situations où j'ai l'impression de contrôler les choses, dans une situation de ministère un peu délicate, mais où je sais que, voilà, je m'en suis déjà sorti par le passé. Alors je fais cette prière et j'essaie de me rappeler de l'esprit du jeune Michel que j'étais, qui avait une vingtaine d'années, qui à l'époque n'avait aucune confiance en lui, mais qui désirait aider ici ou là dans l'église locale, ou qui s'approchait tout simplement du Seigneur sans vraiment le connaître. Et je crois que c'est une clé, de se rappeler que nous sommes des serviteurs, nous sommes des esclaves de Christ. Et Jésus nous le rappelle d' ailleurs, hein, lorsque toi esclave, tu as fait ce que tu dois faire, c'est-à-dire ton service, c'est juste normal, c'est juste ordinaire. Je m'arrête ici, et avant de prier, je voudrais juste vous dire, mais voilà, quelle joie lorsqu'on peut s'approcher de Dieu avec une bonne intention. Quelle que soit l'offrande d'ailleurs, hein. Quelle joie lorsqu'on peut s'approcher de Dieu avec une bonne intention comme celle d'Abel. Parce que Christ nous accueille. Et vous savez comment Christ nous accueille ? Il nous accueille les bras grands ouverts, pour remplir tous ces besoins les plus profonds et les plus intimes de nos vies. Je vais prier.